Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Clémentine Proto. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Microcité, votre émission d'actualité du vendredi après-midi. Toute l'équipe est très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la première de l'année 2022. Au programme aujourd'hui, nous allons nous glisser dans les bureaux de vote de la primaire populaire. Les 500 000 inscrits ont jusqu'à dimanche pour élire leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Florent Gesmon, notre invité, nous dévoilera les dessous de l'organisation de la primaire en Isère. L'occasion de revenir sur le sens de cette démarche citoyenne. Après ce dossier, nous vous emmenons à la salle de sport pour rencontrer une championne du monde de force athlétique. Clara Perrault a 20 ans, elle a commencé ce sport mélange d'haltérophilie et de musculation lorsqu'elle était adolescente, une activité peu connue qu'elle aime partager, vous l'entendrez en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8, c'est parti. Et on commence avec l'actualité qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Bonjour Agathe Legrand.
Bonjour Clémentine. La France cherche une solution à la crise ukrainienne. Emmanuel Macron a appelé son homologue russe ce matin et s'entretiendra avec le président ukrainien en fin de journée. Nous ferons le point sur ces échanges avec Gwendoline Langlois en ce début de journal. 24 heures après la découverte du corps d'un enfant dans une valise en Seine-et-Marne, sa mère a été interpellée. Elle est pour l'instant la principale suspecte. Le groupe Orpea en difficulté à la suite de la publication d'un livre dénonçant les mauvaises pratiques au sein de leurs EHPAD. Une réalité que pour les professionnels du secteur, un ancien directeur d'établissement témoigne dans ce journal. Emmanuel Macron s'entretiendra ce soir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Un peu plus tôt dans la journée, le président français avait appelé Vladimir Poutine. Gwendoline Langlois, la France tente le tout pour le tout pour régler pacifiquement ce dossier.
Et oui, ce matin, la discussion a duré plus d'une heure entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La discussion entre les deux dirigeants a permis de s'entendre sur la nécessité d'une désescalade, a déclaré l'Élysée. Le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive selon la présidence française. Côté Kremlin, la présidence russe a seulement indiqué que Vladimir Poutine resterait campé sur sa position. Pas de retrait des troupes sans assurance que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Des exigences qui seront également au menu de la conversation téléphonique de ce soir entre présidents français et ukrainiens. Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, est spécialiste du sujet. Pour elle, ces appels téléphoniques ne sont que le début d'une longue série de concertations. Elle répondait à Anouk Caron.
Ça m'étonnerait que la Russie se plie, si je puis dire, aux exigences occidentales suite à un seul appel téléphonique. Donc, ce sera du dialogue, quelles concessions seront faites. Et c'est vrai que du côté occidental, ça prend sans doute un petit peu plus de temps parce qu'il y a besoin d'une concertation. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la Russie qui n'a, si je puis dire, à sa tête qu'un chef d'État.
Un nouveau sommet France, Allemagne, Russie et Ukraine est prévu dans 2 semaines. Et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, se rendra prochainement en Ukraine avec son homologue allemande.
Le Burkina Faso, suspendu de la communauté des États de l'Ouest africain, ces derniers se sont réunis ce matin pour discuter des sanctions à donner à la suite d'un coup d'État lundi qui a renversé le président en place.
Une première interpellation ce matin après la découverte d'un corps d'enfant caché dans une valise en Seine-et-Marne.
Il s'agit de la mère de l'enfant. Recherchée activement depuis sa disparition hier, elle a été arrêtée ce matin et placée en garde à vue. Léa Bouvet, quels sont les éléments dont disposent actuellement les enquêteurs ?
Alors, selon une information du Parisien, cette femme, âgée de 33 ans, est suspectée d'avoir poignardé son fils. Les enquêteurs expliquent avoir découvert des traces de sang mal nettoyées dans la maison familiale. Le corps du garçon de 10 ans avait été découvert hier, en début d'après-midi, par un chien de la brigade canine des pompiers. Il avait été placé dans une valise jetée dans un conteneur situé dans le lotissement où réside le couple. C'est le père de l'enfant qui avait alerté la gendarmerie de Lagny-sur-Marne mercredi soir, après avoir constaté l'absence de son fils et de sa compagne. Selon BFM TV, la mère de famille, décrite comme fragile psychologiquement, aurait quitté leur domicile sans emporter ses affaires. Elle s'est ensuite réfugiée chez des proches. Le couple traversait une période difficile liée à une séparation, mais vivait toujours sous le même toit. Une autopsie du corps de l'enfant est prévue aujourd'hui pour déterminer les causes exactes de sa mort. L'enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles.
250 journalistes sont attendus lundi à la cour d'assises de Grenoble pour l'ouverture du procès de Nordal Lelandais. Un procès très suivi donc, l'accusé en cour la perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys. Le verdict ne sera connu que dans 3 semaines.
La 5e vague de Covid-19 perturbe le calendrier scolaire, Agathe.
Et oui, avec un report du baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé cet après-midi à la suite d'une réunion avec les syndicats. Initialement prévues le 15 mars, elles seront repoussées mi-mai. Une décision qui soulage Olivier Moine, professeur dans un lycée de Grenoble et syndiqué.
Pour nous, c'est une sorte de soulagement de la part des collègues de savoir qu'ils vont disposer de 2 mois supplémentaires pour préparer les élèves aux épreuves. Parce que déjà, le calendrier normal est très tendu parce que ces épreuves arrivent tôt dans l'année. Mais là, avec la pandémie... Ça a été extrêmement compliqué. Enfin, là, on peut dire qu'on n'aurait vraiment pas été prêt pour le mois de mars, quoi. C'est une bonne nouvelle pour nous et pour les élèves, oui, tout à fait. Parce que les épreuves se passeront dans de bien meilleures conditions.
Le rebond de l'épidémie est également responsable de la fermeture de plus de 20 000 classes aujourd'hui. C'est un record. Jean Castex envisage un allègement du protocole sanitaire à la fin des vacances de février pour endiguer ces fermetures. Après ces premières vagues, l'économie française atteint un taux de 7% de croissance, du jamais vu depuis 50 ans, a-t-on appris aujourd'hui par l'INSEE. Le Premier ministre Jean Castex sera demain en visite à La Villeneuve des Chirolles et de Grenoble pour saluer la première année du fonctionnement du comité interministériel de la ville. Ce comité avait été créé pour mettre en place des mesures en faveur des quartiers défavorisés dans l'Isère. Top départ pour la primaire populaire de la gauche. Depuis hier, les 460 000 inscrits peuvent classer les candidats pour élire leurs favoris. Ils ont jusqu'à dimanche pour le faire.
Et on y reviendra avec Gwendoline Langlois. Après ce journal, il est 16h37. Vous écoutez le journal d'Agathe Legrand.
Une semaine après les premières révélations, les EHPAD du groupe Orpea sont encore dans la tourmente. L'ARS inspecte depuis hier l'établissement pointé du doigt dans le livre enquête du journaliste Victor Castanet. Le groupe Orpea est accusé de réduire les soins et les repas des résidents par souci d'économie. Une pratique qui choque mais qui n'étonne pas Jean-Claude Romero, ancien directeur d'un EHPAD public dans l'Aveyron, au micro d'Anouk Caron.
La maltraitance, elle existe depuis des années et des années parce qu'il y a forcément dans beaucoup d'établissements, manque de moyens, ça c'est évident. Tout le monde savait très bien qu'il y avait des mecs qui gagnaient du fric sur la dépendance et sur les personnes âgées, ça tout le monde le sait. Ça devrait pas exister, les établissements privés à but lucratif. C'est pas normal que tu gagnes du pognon quand même sur de la prise en charge de personnes dépendantes, c'est pareil, incroyable. Tous les budgets quand même de tous ces établissements sont contrôlés par l'ARS. Donc quand tu vois qu'il y a trop de bénéfices, sur trop d'excédents sur un établissement et que tu regardes le budget couche par exemple et que tu vois un budget couche qui est largement inférieur à ce qui est dans d'autres établissements qui font le même boulot. Toi, tu peux très vite constater qu'il y a un problème. Donc après, qu'on soit surpris de se rendre compte au bout de tant d'années que ben, c'est un truc qui déconne, il ne faut pas déconner. Il ferme les yeux depuis longtemps. Que ça sorte, c'est bien, très bien, mais il faut quand même des actions derrière.
Les résultats de l'inspection de l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine seront communiqués d'ici quelques jours. C'est un ouf de soulagement pour les vendeurs de CBD de l'agglomération grenobloise. Le Conseil d'État a suspendu ce lundi la décision du gouvernement d'interdire la vente de fleurs de CBD. Ce produit est issu de la plante de cannabis, mais ne contient pas de molécules psychotropes. La suspension de l'interdiction ne mène pas pour autant à une autorisation définitive. Les commerçants sont donc toujours dans le flou, Léa Bouvet.
Sur les portes des boutiques de CBD à Grenoble, le mot « résistance » apparaît en lettres rouges pour interpeller les passants. C'est le cas chez Anthony, gérant du magasin Grignol.
Se voir privé de 70% d'un chiffre d'affaires sur un commerce, c'est juste bon à mettre la clé sous la porte. Donc le côté résistance, ça a été vendre du CBD sous le manteau, hein, tout simplement.
Anthony le sait, cette victoire est provisoire. Elle intervient après des années de bataille entre la Cour de cassation, la Cour européenne, le gouvernement français et maintenant le Conseil d'État. Une situation stressante pour les vendeurs.
Ça devient quand même assez fatigant. Il y a un investissement personnel, financier évidemment, qui va avec. Mais à un moment donné, il faut légiférer dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est des décisions qui permettront à tout le monde de travailler tranquillement.
Ce flou inquiète aussi les consommateurs. Sébastien fait partie de ceux qui utilisent le CBD pour se sevrer d'une addiction au cannabis. L'interdiction de vente l'avait obligé à reprendre d'anciennes habitudes.
J'ai pas eu vraiment eu le temps de faire les stocks, du coup j'avais plus rien et j'ai dû recommencer à acheter du THC. Quoi.
Alors que le nombre de boutiques de CBD a été multiplié par 4 en un an, le bras de fer ne semble pas terminé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué qu'il regrettait la décision du Conseil d'État.
Les handballeurs français affronteront la Suède ce soir en demi-finale de l'Euro après leur qualification contre le Danemark. Coup d'envoi à 20h30. Et ce soir aussi, le club de rugby du FCG reçoit Rouen au Stade des Alpes pour la 19e journée de Pro D2. Un match avec une forte dimension symbolique à la suite de la mort du joueur rouennais Jordan Michalet. Le FCG était son premier club.
C'était Agathe Legrand pour le journal d'actualité. On vous retrouve en fin d'émission pour un rappel des titres. Vous êtes toujours dans Microcité, il est 16h41. Depuis hier, 467 000 inscrits à la primaire populaire peuvent choisir leur candidat. Ils sont invités non pas à voter pour une personnalité, mais à leur attribuer une mention. Bien, passable, insuffisant. Un système un peu particulier que nous expliquera notre invité Florent Gessemont, coordinateur de la primaire en Isère. En attendant, un peu de musique et on vous retrouve tout de suite après. We got big stacks, no cap, no fat summer. Make tracks, make cash, big fat summer. Hit that, go back in the pants summer. Trip, trip, got the Gucci on my lens. I really can't complain, I'm passing late. Yeah, I'm really not the one you can ask him, mate. So pops know my name, I've heard the game. Like Esh, come fucking it up. Like Esh, come fucking it up. Ay, ay, like you heard of this, I murdered this. I spend it in a day cause I'm earning this. The burning kid, you all back a murking bitch. Like, hoping that they learn from this. We gon' pull up with a stick, stick. That clip, clip. Then my homies dip, dip. Like Tiger, I'm on fire. Drip from designer, she locking my attire. I'm hitting the dash in the floor and fucking up the tires. Think I'm stuck in the loop. I think that I've been missing cause I'm stuck in the booth. Like, nah, I'm on top. I won't stop until me and my boys chilling in the foreign drop top. Like, fill up my cup with some Cartier. Can't see through these shades and they Cartiers. Like, I fuck this bitch just to start my day. This I'm lean in my cup, this ain't a Chardonnay. Nah. These cunts mention my name, I'm flexing again. You're probably sucking dick for some fame, like ain't it funny? Watching Nash cunt get dumb rich. I just want the funds in, you be on some dumb shit. One hit, then I make another. Don't fuck it out of rubber, they're snitching they undercover. Like, my boy's silent, they don't chat. Just make that cash, it was a hook, play that. We got big stacks, no cap, roll fat summer. Make tracks, make cash, big facts summer. Hit that, roll back in the band summer. Trip, trip, got the Gucci on my lens. I really can't complain, I'm passing lane. Yeah, I'm really number one. Ask your mates, your pops know my name. I've heard the game like Esh, come fucking it up. Like Esh, come fucking it up. Like Esh, come really fucking it up. I double my cup, I made it so they love me stuff. I feel suit, we gonna fucking black belly coupe. The next day get paid like I'm shooting some hoops. I'm up next, she gets undressed. Hundreds on the dresser, don't make assumptions. Like, this ain't dirty money, gave it a bird bad. Thinking if I didn't rap, she would've flirt back. Sold my soul to the game. It ain't the same in my range. Fuck a dozen of the claims, yeah. Diamonds got a drip, making it rain. Fuck the foreign bitch, ain't no pronouncing the name, nah. Yeah, we vicious, we doing missions. Pussy wet, got it dripping. Scotty Pippen always winning. Yeah, she said she loving an SA. Said I'm from Adelaide, let's go and get the ag bay. Quick edit, unleaded, we leg it. You said it, we send it. One word, five letters. E-S-H-A-Y, twice schedule my date line. But I could make time. Nothing but 50s and 100s in my side. There's no way you can flow better than me, but you could try. Like, I said I could get a high, but I can't fly. Call me Lil Yachty, only wanted to go one night. Stacks, no cap, roll fat summer. Make tracks, make cash, big facts summer. Hit that, roll back in the band summer. Trip, trip, got the Gucci on my lens. I really can't complain, I'm passing lane. Yeah, I'm really number one, you can ask your mates. Your pops know my name, I've heard the game. Like Esh, come fucking it up. Like Esh, come fucking it up. Vous Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8, vous venez d'écouter Échet de Gouchi Dassi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, il est 16h44.
Le dossier de la semaine.
10 semaines avant le premier tour des élections présidentielles, une nouvelle primaire s'organise à gauche. Après celle des écologistes il y a 3 mois, la primaire populaire a commencé hier. Comment fonctionne cette élection? Quels politiciens y participent? On voit ça avec votre invitée Gwendoline Langlois.
Effectivement, c'est depuis hier et jusqu'à dimanche 17h, attention, plus de 460 000 inscrits sont appelés à évaluer sur Internet la candidature de 7 politiques de gauche. On viendra sur ces candidats, mais d'abord, on va parler de l'organisation de cette primaire avec notre invité, Florent Gesmont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du comité grenoblois de la primaire populaire. Alors, on l'a compris, c'est une primaire d'ampleur, hein. On rappelle 460 000 inscrits, c'est 4 fois plus que la primaire écologiste. Donc, les urnes ont ouvert hier. Alors, est-ce que vous avez eu un petit peu des échos? Comment ça se passe? Il n'y a pas trop de bugs? Tout se passe bien?
Alors, 467 000 inscrits, du coup. On a donc tout mis en place pour que le vote se passe très bien. Donc, on a déjà toutes les informations qui ont été envoyées par mail et par différents supports aux votants. Ensuite, on a une plateforme de support mail et une plateforme de support téléphonique, avec justement, sur cette plateforme de support téléphonique, 500 bénévoles qui sont là sur les 4 jours pour soutenir les problèmes et permettre à chacun de voter dans les meilleures conditions.
Et pour l'instant, pas de problème de serveur, etc. Tout se passe bien?
Rien n'est signalé à ce jour.
Ok, pour l'instant, du coup, il y a un tiers des votants qui ont déjà rendu leur évaluation. Après, on a dit qu'il y a 460 000 inscrits. C'est donc un succès populaire. Mais on a rencontré aussi des gens qui n'ont pas pu s'inscrire. On écoute ce qui les a bloqués.
Pour moi, ça reste très compliqué parce que je ne m'y connais pas plus que ça non plus en politique.
Est-ce que ça vous parle, ce système de vote?
Classer plutôt que élire une personnalité? En soi, oui. Après, classement, ça veut dire beaucoup de choix aussi. Il faut faire la différence entre toutes les personnalités, voir ce que chacune propose. Genre, moi, je suis incapable de dire le programme exact de chacun. Après, c'est parce que moi, je ne connais pas plus que ça.
Alors, Florent Gesmont, une petite réaction?
Alors, réaction sur... Alors, déjà, dans un premier temps, on n'est pas sur un système de classement. On est sur un système qui s'appelle le jugement majoritaire. Donc, on va évaluer chacun des candidats par 5 mentions. Très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant. Et c'est justement ce mode de scrutin qui va permettre d'évaluer les candidats et de créer le rassemblement, puisque ce mode de scrutin a beaucoup d'avantages, contrairement au scrutin nominal à 2 tours.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce scrutin, ce mode de scrutin, donc le jugement majoritaire? Donc vous avez dit, on évalue les candidats, 5 mentions, c'est ça?
Voilà, 5 mentions. Nous pouvons du coup attribuer les mêmes mentions à éventuellement plusieurs candidats, par exemple 2 candidats que l'on aimerait soutenir de manière plus forte, leur donner de la mention très bien. Puis, pour les 3 autres, par exemple, que l'on veut moins mentionner, c'est insuffisant, par exemple. Et on peut très bien avoir un résultat qui promeut, du coup, 2 candidats en tant que, avec la mention excellent.
Parce qu'en gros, on les évalue sur plusieurs points, c'est ça?
Alors, on évalue chaque candidat une seule fois avec une mention. Donc on attribue par exemple au candidat A la mention assez bien, au candidat B la mention bien, on peut attribuer au candidat C la mention aussi très bien et puis au D insuffisant par exemple.
Mais du coup, comment on sait qui a gagné au final?
Alors, pour évaluer le mode de scrutin, on prend la médiane entre tous les systèmes de vote. On va prendre à partir quand au moins 50% des votants ont voter pour la meilleure mention. Donc on va prendre à partir de très bien, on regarde combien de pourcents ont voté pour très bien, après combien de pourcents pour bien, et quand on arrive à 50% des votants, cette mention est nommée la mention majoritaire.
D'accord, donc en gros, on regarde la personne qui a obtenu le plus de très bien et de bien par rapport au nombre de votants, et du coup c'est cette personne qui va remporter la primaire populaire. Mais du coup, elle remporte quoi finalement?
Alors, elle remporte déjà le classement, elle est classé comme bien en première position. On peut avoir un deuxième candidat éventuellement qui peut être classé comme bien en deuxième position. Et après, le reste des classements dans cet ordre-là. Ce que ça permet, du coup, ça va être de permettre d'élire la personne que l'on souhaite soutenir et pour laquelle on souhaite faire la campagne après le vote. Et ensuite, de permettre de créer aussi le rassemblement, puisque vous avez peut-être vu que trois des candidats ne souhaitent pas se présenter à la primaire populaire, donc Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Il va falloir créer cette force de rassemblement, et à côté de ça, on a quatre autres candidats qui, eux, soutiennent du coup la primaire populaire, l'investiture populaire.
Alors sur les candidats, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Juste une dernière question d'abord sur ce mode de scrutin. Pourquoi avoir fait le choix du jugement majoritaire, puisque au final, vous l'avez dit, vous allez quand même soutenir qu'une seule candidature?
Alors, la candidature qui sera présentée sera celle qui sera présentée à la présidentielle pour gagner en avril prochain. Ensuite, le président devra forcément créer son gouvernement, créer son programme. Donc voilà, les résultats de la primaire pourront contribuer justement à créer le rassemblement, puisque le candidat vainqueur devra, un, œuvrer pour le rassemblement, et deux, mettre en œuvre le socle commun durant son mandat.
Donc, en gros, c'est une primaire pour élire le président et ensuite choisir le deuxième, du coup, il est Premier ministre, le troisième ministre de l'Intérieur, c'est un peu ça?
Non, alors pas du tout. Mais par contre, on veut donner les éléments qui permettent de créer ce rassemblement. Maintenant, du coup, à partir de février, après le vote, va s'engager quelques semaines d'échanges avec le vainqueur pour justement définir les conditions de ce rassemblement et comment le mettre en œuvre.
Ça, c'était du coup notre partie sur le mode de scrutin. Donc j'espère que maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair sur comment ça marche la primaire populaire. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux candidats. Alors on va écouter Lucine Ney, qui est étudiante. Elle est inscrite à la primaire populaire. Et dans toutes les candidatures, elle a un peu de mal à s'y retrouver.
Je n'ai pas pu trouver, quand je suis allé sur la page Facebook de Christiane Taubira, comment m'inscrire à la primaire populaire. Et j'ai fait le réflexe que beaucoup de jeunes qui n'ont pas le temps ont fait. J'ai pas trouvé, j'ai pas fait.
J'ai pensé à m'inscrire, mais c'est vrai que je me suis pas inscrite encore.
C'est un peu tard parce que les inscriptions sont finies.
Ah bon, bah voilà. Et bah c'est terminé, bah je le ferai pas. Bon bah tant pis.
Je sais déjà pour qui je vais voter.
Non, j'ai pas trouvé l'utilité de m'inscrire.
Je sais pas, je pensais qu'il fallait avoir un parti ou je sais pas quoi.
Non, je l'ai pas fait.
Bon, on a eu un petit souci technique, du coup on enchaîne. Florent Gessemont, du coup, on a compris, il y a sept candidats qui participent à la primaire populaire, enfin qui ont été retenus pour la primaire populaire. On a trois têtes d'affiche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, qui voulaient d'ailleurs que leur nom soit retiré de cette primaire. Christiane Taubira, qui a dit qu'elle prendrait en compte le résultat de cette primaire. Et trois candidats un peu plus méconnus, Anna Agape-Portery, militante écologiste, Pierre Larouturou, député européen, et Charlotte Marchandise, militante associative et ancienne adjointe au maire de Nantes. De Rennes, pardon, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut toujours parler de primaire, en sachant que donc trois des sept candidats retenus par la primaire, et pas trois petits candidats, ont indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin?
Très bonne question. Justement, nous ne savons plus primaire populaire. Le vote est un vote d'investiture. Donc on l'appelle aujourd'hui investiture populaire. Le nom de primaire populaire resté par historique.
Mais du coup, pourquoi avoir choisi de faire une primaire avec des candidats qui ne voulaient pas être là?
Alors nous, notre objectif, il est clair. Il est de gagner la présidentielle avec un candidat qui permet le rassemblement. D'avoir une diversité de candidats, on le voit mathématiquement, nous ne pouvons pas gagner les présidentielles et passer au second tour. Donc notre objectif reste le même. Nous avons proposé au 30 novembre cette primaire populaire. C'est les candidats principalement connus l'ont refusé. Aujourd'hui, du coup, nous mettons tout en œuvre pour arriver à nos fins et donc avoir un président qui met en œuvre ce socle commun et ce mouvement de rassemblement.
Oui, mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi, du coup, vouloir faire un mouvement de réunion si c'est pour finalement prendre des gens qui ne veulent pas s'associer, qui ne veulent pas s'associer ensemble?
Alors, aujourd'hui, ils ne veulent pas s'associer. Mais justement, aujourd'hui, on est quand même un demi-million de personnes qui vont voter pour la présidentielle. Il serait quand même de mauvaise stratégie, je pense, que le candidat vainqueur refuse ce demi-million de personnes pour la présidentielle.
Bah, surtout qu'il y a des parrainages à la clé, de ce que j'ai compris.
Alors effectivement, la primaire populaire du coup œuvre du coup pour avoir une candidature clé en main pour le gagnant de la primaire populaire. Donc Nous sommes en relation avec des élus pour justement permettre le parrainage du gagnant. Et nous avons aussi en parallèle un mouvement qui est lié à la primaire populaire, qui est le serment de Romainville, qui sont des élus qui ne parraineront pas justement les candidats qui n'œuvreront pas pour le rassemblement.
Pour l'instant, la seule candidate d'ampleur qui reconnaît plus ou moins la primaire populaire, c'est Christiane Taubira. Est-ce que finalement, ce n'est pas le tremplin parfait pour lancer sa candidature ?
Alors, chacun des candidats choisit sa stratégie comme il veut. Christiane Taubira a décidé d'accepter. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Yannick Jadot auraient pu faire de même.
Merci Florent Gesmond d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinateur du groupe grenoblois de la primaire populaire.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Cette semaine, nous fêtions la Journée internationale du sport féminin, l'occasion de mettre en lumière des sportives iséroises comme Clara Perrault. L'étudiante est championne du monde de force athlétique. En septembre dernier, elle a battu le record du monde du soulevé de terre. Sur sa barre, 200 kilos, c'est trois fois son poids. J'ai eu la chance de la rencontrer dans sa salle de sport. Et ses cours à peine terminés, Clara Perrault commence sa deuxième journée à l'entraînement. C'est comme ça, cinq fois par semaine pendant trois heures.
On a un sport composé de trois mouvements qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, qui sont des mouvements de base en fait, de musculation. On n'est pas olympique, on est reconnu sur la liste des sportifs de haut niveau.
L'objectif de la force athlétique, soulever le plus lourd possible. Clara Perrault a commencé ce sport à 14 ans après un défi lancé par son frère.
Un jour, pendant les vacances de Noël, on a fait un crash test un peu, on m'a demandé de faire un soulevé de terre. Et je suis montée à 100 kilos et donc mon père avait cherché un peu les performances, tout ça. Et quand je lui dis ok, je me lance dans ce sport, la saison avait déjà démarré. Donc j'ai pas attaqué tout de suite les compétitions. J'ai fait une année un peu de muscu pour me renforcer aussi et puis j'ai attaqué l'année d'après.
Depuis, Clara Perrault est devenue en 2019 championne du monde junior de force athlétique, vice-championne en 2021. Au fil des années, l'athlète a pris de la masse musculaire. Son corps s'est transformé, le regard des autres avec, et il n'est pas toujours tendre.
Ma grand-mère qui me disait « tu vas devenir un homme », tout de suite l'image en fait, la femme qui fait du bodybuilding, qui maintenant me dit « t'as minci, t'as un joli corps, t'as des jolies hanches ». Donc je suis un peu aussi dans cette lutte pour le sport féminin. Il n'y a pas de sport pour les filles, il n'y a pas de sport pour les garçons, tout le monde a sa place où il veut, quoi.
Pour présenter son sport, valoriser la pratique féminine, l'athlète a rencontré des collégiens à Sassenage.
Est-ce que des fois vous avez rencontré des personnes qui vous ont demandé des autographes ?
Une rencontre organisée à l'occasion de la semaine olympique et paralympique 2022.
Ça s'est plutôt bien passé. Ça leur a montré qu'une fille peut être forte et que c'est pas tabou et c'est pas objet de critique ou quoi. Et là, je pense que je suis prête pour la prochaine classe. C'est bon.
Et en bonne ambassadrice, la championne ne compte pas s'arrêter là. Prochain objectif, gagner à nouveau le titre de champion du monde junior et conserver son titre européen. Des championnats du monde qui auront lieu fin août en Équateur et les championnats d'Europe, ça sera début décembre en Pologne. Maintenant, un bref rappel des titres avec Agathe Legrand.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas susciter la panique autour des tensions avec la Russie. Le chef de l'État doit s'entretenir ce soir avec Emmanuel Macron qui tente depuis ce matin de pacifier les relations. Il avait par exemple appelé Vladimir Poutine pour pacifier les relations russo-ukrainiennes. La mère de l'enfant retrouvée mort dans une valise en Seine-et-Marne, interpellée. La femme de 33 ans a été placée en garde à vue. Pour l'heure, c'est la principale suspecte dans l'affaire. Une autopsie du corps est prévue dans la soirée. Le baccalauréat reporté de deux mois, le ministère de l'Éducation a annoncé aujourd'hui ce report à la suite d'une réunion avec les syndicats. Ces derniers expriment un soulagement. Selon eux, la crise du Covid aurait empêché les élèves d'être prêts pour mars, date à laquelle les épreuves auraient dû être passées. Et puis, côté météo, le beau temps de ces derniers jours ne va pas durer. De la pluie est annoncée pour ce début de semaine. Il va donc falloir sortir les parapluies, Clémentine.
Bon, et bon, on est prévenu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Petite pensée à notre collègue Anouk qui, malgré le Covid, a quand même préparé cette émission avec nous et qui la suit à distance. Merci à notre technicien du jour, Louis. Et merci à Sinamir, notre rédacteur en chef cette semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et les précédentes en replay sur le site campusgrenoble.org. D'ici là, prenez soin de vous, bon après-midi et à bientôt.